Actu SF, les podcasts.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette table ronde consacrée à l'auto-édition. Sur le plateau, vous avez Nathalie Bagadet, surnommée l'enchanteresse. Elle vous expliquera peut-être pourquoi. nous avons Betty Piccioli à côté et Guylaine Méric tout au bout. Donc, ces trois personnes ont une expérience en auto-édition et ils vont nous en parler et on va essayer de voir un peu de quoi ils retournent. Parce que jusqu'à présent, il y avait, à ma connaissance, deux formes d'édition, n'est-ce pas ? C'était l'édition à compte d'éditeur et l'édition à compte d'auteur. Et l'édition à compte d'auteur a très mauvaise presse, parce que, si j'ai bien compris, c'est l'auteur qui paye tout, et puis qu'après, il se retrouve avec des cartons de livres sur les bras et il ne sait pas comment les distribuer. Tandis qu'à compte d'éditeur, tout va bien, mais on ne gagne pas grand-chose. Donc, en fait, quelle est la bonne solution ? Ben, depuis à peu près les années, milieu des années 2000, existe une alternative qui est l'auto-édition. Et nous avons ici trois auteurs qui peuvent nous parler de leur expérience en la matière. Alors, je commencerai peut-être par une question un peu provocatrice. L'auto-édition, elle passe encore parfois pour de l'amateurisme. Alors, dans quelle catégorie vous placez-vous ? Auteur amateur, auteur entrepreneur ou écrivain professionnel ?
Alors, pour ma part, mon expérience en auto-édition est très récente, parce que j'ai publié en tout 7 livres, les 6 premiers à compte d'éditeurs dans des maisons d'édition, et seulement un seul très récemment en auto-édition. Donc moi, je me placerai dans la catégorie écrivain professionnel, qui tente de faire de l'auto-édition, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense que Nathalie sait de quoi je parle. Mais voilà, écrire un professionnel qui tente quelque chose d'autre.
Alors, j'enchaîne, parce qu'effectivement, contrairement à Betty, moi j'ai une expérience qui remonte à longtemps, puisque j'ai commencé l'auto-édition en 2015. Et avant ça, j'ai été éditée de façon classique dans deux maisons d'édition, à compte d'éditeur donc. Et j'ai été très frustrée de l'expérience, même si j'avais des éditeurs formidablement, avec une relation formidable, très humaine, très ouverte, etc. J'ai été très frustrée parce que j'ai découvert qu'en tant qu'autrice, je n'étais propriétaire que des mots sur les pages. Et moi, je n'étais pas du tout propriétaire et décisionnaire pour l'objet livre. Et j'adore l'objet livre, j'adore le livre papier. Et quand j'ai vu mes couvertures, j'ai pleuré. Ce qui n'est pas le but quand même de l'opération. Donc, je n'ai pas eu de décision sur les couvertures, je n'ai pas eu de décision sur le prix du livre, je n'ai pas été décisionnaire sur la date de publication, la durée de publication. Un livre en édition classique, il a une durée de vie assez limitée qui est proportionnelle à son succès et qui peut s'échelonner entre 3 et 6 mois. Et après, il faut faire de la place aux autres livres, aux autres auteurs. Et moi, je voulais que mes livres vivent longtemps. Je pense que c'est l'objectif de tout auteur. Donc avant tout, je suis autrice. Et bien sûr, je pense que autrice professionnelle, pour durer, il faut être professionnel jusqu'au bout des ongles. Donc je conseille d'être auteur professionnel, même si pour certains, le syndrome de l'imposteur passe un peu par là parfois et c'est un peu difficile. Donc j'ai décidé, grâce à un concours de circonstances, de me lancer en auto-édition en 2015. Et j'ai découvert quel bonheur c'était de décider de tout soi-même, mais pas tout seul. Beaucoup de gens pensent qu'en auto-édition, on est seul. Non, on peut s'accompagner d'une équipe et on a intérêt à s'accompagner d'une équipe. Et du coup, on découvre le plaisir de choisir sa couverture, de faire appel à des graphistes, de faire une mise en page qui correspond à ce qu'on veut vraiment donner. Et surtout, notre livre vit longtemps. Sur mon stand à l'heure actuelle se trouve mon premier roman auto-édité. Je suis venue avec en 2015 aux Imaginales. Et c'est toujours mon best-seller annuel. Alors que s'il avait été édité en maison classique, il serait mort aujourd'hui. Et c'est toujours mon best-seller annuel. Et quand j'étais aux Imaginales en 2015, je m'étais dit, un jour, dans longtemps, je reviendrai invitée. Et cette année, je suis invitée. Donc, c'est possible. Et je suis là pour vous montrer que l'édition, l'auto-édition, le but, la finalité, c'est de fournir des livres qui vivent le plus longtemps possible et qui vous rendent heureux. Et ça peut marcher. Voilà. Tu as un micro, je pense.
Merci.
Mais une question. Oui, c'est-à-dire, vous vous définissez comme un auteur amateur, entrepreneur, écrivain professionnel?
J'attends que le mot te passe. Alors, après ce que tu viens de dire, enfin, je suis d'accord avec l'essentiel de tout ce que tu as pu expliquer. Je me considère comme un auteur professionnel parce que d'abord j'ai commencé par être édité par un éditeur classique. Il s'est trouvé que je démarrais une série et que pour des questions de différents, il n'y a pas lieu ici d'expliciter, j'ai récupéré les droits sur la série pour pouvoir continuer à sortir les autres tomes. Et en récupérant les droits, je me suis rendu compte que, à partir du moment où on a édité un premier bouquin chez un éditeur qui a pignon sur rue, c'est très compliqué après, par la suite, de trouver un éditeur qui va récupérer la trilogie, pour le coup, puisque c'était une trilogie. Parce que c'est compliqué, parce qu'on prend quelque chose à un éditeur qui a déjà édité. Et je me suis résolu à me dire, bon, écoute, soit la saga reste dans tes tiroirs, soit tu te retrousses sur les manches quoi, et tu sors ta saga en auto-édition. C'était une douleur à la base, parce que je me disais, je vais faire de l'édition anecdotique, à partir du moment où l'auto-édition, on sait qu'on ne va pas être distribué sur tout le territoire, voire à l'étranger, etc. Surtout quand on a une ambition particulière pour un livre ou une saga particulière. Donc ça... je l'ai fait, mais je me suis accompagné à chaque fois que j'ai fait de l'auto-édition, et là j'en suis à mon quatrième livre auto-édité, je me suis accompagné d'une campagne de financement participatif. Je le précise parce que sans ça, moi personnellement, je n'ai pas les moyens de mettre beaucoup d'argent pour payer l'imprimeur, pour payer tout ce qu'il y a à payer sur la communication, sur l'illustrateur qui va illustrer votre couverture, etc. Encore que je suis graphiste, donc ça me permet quand même de faire pas mal de choses, mais pas tout. Donc voilà, le financement participatif, c'est venu s'additionner à un travail qui est, alors je le dis pour ceux qui ont de l'auto-édition, qui est énorme. Quand on a envie d'écrire, en fait, on ne se rend pas vraiment compte du travail, enfin si, on s'en rend compte, la chaîne du livre qu'on a autour, l'éditeur, le diffuseur, toutes les personnes qui travaillent autour sont indispensables. Et quand on est seul à travailler dessus, on se rend compte de ce que ça représente comme somme de travail. Et pour le coup, on passe son temps à faire du travail éditorial, à faire de la communication, à faire du marketing, à être en relation avec différents prestataires. Et du coup, on finit par ne plus avoir le temps d'écrire. Simplement. Donc, c'est bien de pouvoir jongler entre l'édition et l'auto-édition pour ces raisons-là. Et pour le fait aussi qu'au niveau de la crédibilité en tant qu'auteur, on a besoin de passer par aussi un éditeur pour conserver cette aura d'auteur et pour être invité sur des salons, pour être présent sur des, voilà, sur des moments comme ça, c'est indispensable. Voilà.
Je vais rebondir là-dessus. Parce que quand tu parles de crédibilité, pour moi, il y a un souci. Pour moi, la crédibilité, c'est pas un éditeur qui peut te l'apporter. Oui, il peut te l'apporter. Mais pour moi, la plus grande crédibilité, c'est les lecteurs. À partir du moment où tu as des gens qui viennent parce qu'ils ont lu ton bouquin, qui viennent te traverser la France pour te voir pour ton bouquin, ta légitimité, elle est là, ta crédibilité, elle est là. Elle est peut-être moins vaste que si tu avais un éditeur qui a pignon sur rue et que tu diffuses dans les librairies de Paris, de Navarre, etc. Mais c'est les lecteurs, la légitimité. Et avec ces années derrière moi d'expérience, cette légitimité, elle est là, elle est installée. Je suis heureuse de ce que je vis et je me sens très, très, très légitime. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes nombreux à vouloir vous auto-éditer, il faut dépasser ce syndrome de l'imposteur qui existera de toute façon, même si vous êtes édité. Floriane Salin a très bien parlé dans le discours d'ouverture. Ce syndrome de l'imposteur, il est chez beaucoup, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'auteurs, notamment parce qu'on passe par la période des soumissions éditoriales. Rien que le terme, au moins, il m'hérisse. Le fait de se soumettre, le fait d'être, de dire voilà, je vous propose mon texte, je sais qu'il y a 150 000 personnes qui attendent d'être éditées chez vous, ça nous met en position d'infériorité, ce qui n'aide pas du tout à contrebalancer le syndrome de l'imposteur. Mais à partir du moment où vous avez été édité ou auto-édité, où vous avez des lecteurs, petit à petit, ce syndrome va disparaître, et j'espère même qu'il disparaîtra bien avant, parce qu'à partir du moment où vous avez donné de l'émotion aux lecteurs qu'ils ont dépenser leur argent pour acheter l'un de vos livres et qu'ils en ont été heureux, bingo, vous avez gagné votre pari.
Merci. Merci. Donc, je remarque, c'est une question que je voulais vous poser, mais je crois que vous y avez déjà répondu. Quelles sont les motivations qui vous ont fait choisir l'auto-édition ? Donc, si j'ai bien compris, pour Guillaume, il s'agit de différents avec l'éditeur. Et puis pour Nathalie, c'est la maîtrise totale du sujet. Betty ?
Alors, moi, en fait, comme j'étais déjà dans le circuit éditorial classique, en fait, j'avais ce projet de livre où je savais pertinemment qu'il ne rentrait pas dans les cases des maisons d'édition, parce que c'était un projet très personnel, sur une expérience personnelle, et avec une façon de raconter différente, avec un format différent. Et donc, je me suis posé la question pendant l'écriture de est-ce que je vais perdre 6 mois, 1 an à le soumettre, parce qu'en une fois, moi aussi, j'aime pas du tout ce mot, à le proposer à des éditeurs, sachant que c'était, comme c'était du feel good, que moi je faisais de la jeunesse et de la fantasy, j'avais plus du tout de compte, enfin j'ai zéro contact dans ce milieu-là, parce que c'est pas du tout les mêmes maisons d'édition. Je me suis dit, est-ce que je vais perdre 6 mois, 1 an à refaire des propositions, voire plus de temps pour ça, sachant qu'au bout, je suis pas du tout sûre que ça va aboutir. Et si ça aboutit, je vais peut-être avoir un éditeur qui va me dire le format n'est pas bon, il faut allonger, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que, encore une fois, c'est un projet très personnel. Donc je ne me voyais pas du tout le modifier pour plein de raisons. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai un peu de notoriété, alors quand je parle de notoriété, là je parle... dans le sens lectorat et puis moi aussi communauté sur mes réseaux sociaux, etc. Je me suis dit pourquoi pas le tenter, c'est peut-être le moment avec ce projet en particulier. J'avais pas forcément besoin ou l'envie qu'il y ait un gros lectorat, j'avais plus envie de raconter ce que moi je voulais vraiment en maîtrisant l'ensemble autour. Et voilà, c'est pour ça que je me suis décidée sur ce projet-là en particulier, sur l'auto-édition. Je ne sais pas si j'aurai d'autres projets plus tard qui me donneront la même envie, mais celui-là s'y prêtait particulièrement bien pour moi.
Merci. Donc, projet personnel, donc qui ne trouve peut-être pas d'éditeur pour ce projet-là. Donc, on constate une chose, c'est que les motivations pour se lancer dans l'auto-édition sont diverses. Hein, donc c'est pas forcément les mêmes. Alors, à partir de là, moi j'ai envie de vous poser une question. Quels sont les prérequis pour se lancer dans l'auto-édition ? Parce que Guillaume Méric nous a dit, c'est un gros boulot. Donc, comment concrètement vous faites pour assumer tout ce travail ?
Pour assumer tout ce travail, alors concrètement, professionnellement, je ne fais rien d'autre, déjà, parce que je n'aurai pas le temps. Au niveau des prérequis, comme je disais tout à l'heure, je suis graphiste, donc j'ai cet avantage de pouvoir créer moi-même ma communication. de pouvoir, notamment sur les réseaux sociaux, faire parler de mes œuvres. Et après, c'est beaucoup d'organisation. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez... le fait que je me sers beaucoup de financement participatif, je vois beaucoup l'auto-édition à travers le filtre du financement participatif. Parce que si je n'ai pas ça, il y en a qui le font, qui passent simplement par le numérique, peut-être certains d'entre vous le font, de publier sur Amazon ou sur une autre plateforme. Moi, il se trouve que, comme je travaille dans la fantasy, on est beaucoup ici, je pense, à le faire, j'ai l'impression, alors moi, c'est mon point de vue personnel, que les lecteurs sont plus attirés par les œuvres physiques dans ce domaine-là. Je le vois, moi, c'est sur les salons où j'ai quand même beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me chercher les livres physiques, alors qu'en numérique, je vends assez peu par rapport à en comparaison. Donc, le papier s'est vite imposé. Et donc, ça, pour revenir à votre question, ça m'a amené à devoir porter plusieurs casquettes et à devoir maîtriser à la fois un budget prévisionnel, par exemple, à s'entourer de personnes qui sont capables de pouvoir gérer les domaines qu'on ne maîtrise pas, comme l'illustration, comme parfois la relecture aussi. C'est quand même bien, on voit la différence dans l'auto-édition, souvent entre, on va dire, de la bonne auto-édition avec de la mauvaise, c'est que de la moins bonne, on va dire, on va avoir des problèmes de syntaxe, des problèmes d'orthographe, des problèmes de mise en page. Ça, ce sont des choses qu'un lecteur et d'autant plus un professionnel va avoir tout de suite. Et si on a envie soi-même de se faire remarquer par un éditeur, si on a envie, je dis bien, si on veut rester cavalier solitaire, on peut toujours. Mais en tout cas, rien qu'au regard du lecteur, il faut s'attacher à rendre un travail qui soit le plus professionnel possible. Et pour ça, on est obligé de s'entourer d'un certain nombre de personnes qui vont chacun avec leur talent et leur regard vous amener à avoir un travail qui va être le plus abouti possible. Ouais.
Donc, si je comprends bien, vous ne faites pas tout seul.
Non.
Non, parce que le terme auto-édition, on pourrait le comprendre comme je fais tout moi-même. Donc, il y a des choses que vous êtes obligé de sous-traiter, je vais dire, et qu'il faut peut-être payer aussi.
Ah, tout à fait. Alors, je reviens dessus, mais si j'ai fait le financement participatif, c'est que dans le budget prévisionnel, je prévois par exemple de payer mon illustrateur pour la couverture, parce qu'il ne travaille pas pour des pichenettes. Il faut payer le travail et le payer comme il faut. Donc, effectivement, ça c'est un coût. Et quand en plus on fait du financement participatif, il faut fournir des contreparties aux gens qui participent. Et ces contreparties, il faut les prévoir leur financement aussi. Donc, on fait appel à des prestataires parfois quand ce sont des produits, des widgets, des goodies qu'on va proposer aux personnes. Et dans ces cas-là, on va faire appel à quelqu'un qui sait faire des badges, quelqu'un qui sait faire des tattoos, quelqu'un qui sait faire des colliers, quelqu'un, etc. Proposer des éléments qui vont apporter une valeur ajoutée en fait à son livre.
C'est un travail de chef d'entreprise, en quelque sorte.
Oui, alors c'est rigolo parce qu'hier, j'ai des publications quotidiennes du lundi au vendredi sous le hashtag AMEI, auto-édition et marketing de l'auteur indépendant. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quel réseau que vous suivez. Et donc hier, j'ai fait un post sur... il y a deux thématiques, deux façons de parler de nous. C'est soit auteur auto-édité, soit auteur indépendant. Je préfère 10 000 fois auteur indépendant. Auto-édité, comme tu le dis, on a l'impression de celui qui fait tout seul. Il est dans son petit garage, il fabrique ses livres à la main, presque, il va les imprimer. Non, c'est pas ça l'auto-édition. Et donc justement, ça génère une image un peu amateur. Et c'est pas pour réussir, il faut pas avoir l'air amateur. Donc moi, je préfère le terme autrice indé. indépendant, rebelle, volontaire, hein, ça génère quand même quelque chose d'un peu plus positif, mais ça ne veut pas dire seul. Et effectivement, je considère, il y a plusieurs tâches quand on veut éditer un livre, et donc il faut sélectionner les tâches où on n'est ni bon, ni passionné par la tâche, à déléguer, à quelqu'un qui sera bon, qui le fera beaucoup mieux et beaucoup plus vite que vous. Les tâches, bon, c'est un moyen, ça vous intéresse moyen, mais vous avez un petit talent pour ça, faites-le. Et les tâches où c'est votre zone de génie, vous êtes excellent là-dedans, allez-y, parce que vous allez économiser sur cette tâche-là. Mais effectivement, il y a des investissements à faire si vous voulez réussir votre auto-édition. Alors, je ne passe pas par du financement participatif, c'est de l'investissement. Quand je gagne de l'argent sur mes livres, j'en mets de côté pour les investissements futurs, des livres futurs. Et moi, j'utilise Amazon, mais pour le papier. C'est-à-dire que c'est Amazon qui imprime mon livre, qui l'envoie et qui me reverse 60% du bénéfice du livre. Donc il faut savoir que ça existe aussi avec Amazon, de se faire imprimer son livre sans avoir à aller courir chez l'imprimeur et porter ses cartons de livre après. Cette solution existe, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Et je pense que tu peux aussi peut-être répondre à cette question.
Oui, alors moi du coup, j'ai un peu procédé avec le circuit classique. Je me suis dit, sur mes livres en édition classique, qui intervient, et donc je me suis dit, bah, comme toi, qu'est-ce que je suis capable de faire seule et qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire seule, sachant que je pense que c'est toujours important d'avoir quand même des retours sur ces textes aussi, pas que dans la forme mais aussi dans le fond. Donc bien entendu, il y a eu de la bêta lecture sur mes textes. J'ai fait aussi, enfin sur ce texte-là, j'ai fait du, ce qu'on appelle du sensitivity reading, parce qu'il y avait des sujets sur lesquels moi je ne suis pas du tout compétente ni concernée, et donc ça a été relu par deux personnes concernées par ces questions-là qui m'ont fait des retours et qui m'ont permis d'améliorer quelques petits points. J'ai fait appel à une correctrice professionnelle pour tout ce qui est syntaxe, grammaire, mise en forme, plein de choses comme ça qui étaient importantes. J'ai choisi l'illustratrice avec laquelle j'avais envie de travailler, qui est aussi graphiste et qui du coup m'a fait toute la maquette du livre, la couverture et la quatrième de couve. Et puis et après le reste, j'ai fait seule, sachant qu'en communication, je suis pas trop mauvaise. Et du coup je me suis dit que je voulais absolument travailler aussi avec des blogueurs, donc voilà, j'ai fait service presse, j'ai prévu ça dans mon budget aussi. Moi, sur mon livre donc Les Demoiselles d'honneur préfèrent les kilts, mon budget à la fin, qui était à peu près celui que j'avais prévu dès le début, c'était entre 800 et 1000 euros, donc de ma poche prévu pour l'édition de ce livre là en comptant correctrice, illustratrice là-dedans.
J'ai une question à ce sujet, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais est-ce que tu as pris du plaisir à faire ça ?
Oui. Bah, personnellement, j'ai adoré. Alors déjà, comme tu le disais, choisir soi-même plein de choses, parce que ce qu'on ne sait pas, voilà, quand on veut se faire éditer, qu'on court après les maisons d'édition, on se dit toujours, une fois que c'est fait, une fois que c'est signé, c'est génial, l'aventure commence, ça va être merveilleux. Mais honnêtement, pas du tout, parce que après, ben, y a plein de choses qui vous glissent entre les doigts, sur les choix de couverture, sur plein de choses en fait. Le choix du titre. Il y a plein de choses qui peuvent. Vous avez quand même la main sur, bien sûr, le texte, hein, aucune correction, sans votre validation. Mais tout ce qui est autour peut vous échapper. La communication peut vous échapper aussi. Il y a des textes qui passent complètement sous le radar parce qu'une maison d'édition, même une grande, hein, peut se dire, bon, bah, cet auteur, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, on ne fait pas de promo, et puis on verra bien si ça marche. Et puis vous croyez à votre idée, et puis en fait...
Alors ça, je rebondis là-dessus. Ça, c'est peut-être justement un des défauts qu'il peut y avoir chez les grosses maisons d'édition. C'est parce que comme on ne représente pas un investissement important pour eux, ils ne vont pas mettre la communication, l'argent forcément nécessaire pour faire connaître le livre et l'auteur. Alors qu'une petite ou moyenne maison, on est un investissement important pour eux. Et dans ces cas-là, ils mettent l'argent sur la table, ils font participer au salon.
Oui, par contre, ils n'ont pas beaucoup d'argent.
Oui, quand même, il y a une différence qui est assez notable par rapport à ça, quoi. Après, bon, sur les contrats, par contre, il y a des choses qui sont un peu différentes. En général, dans les grandes maisons, on va avoir des contrats assez typiques, assez types, où on ne va pas trop se poser de questions parce que les choses sont assez claires, alors que chez des petites et moyennes, parfois, on peut avoir éventuellement des surprises, des questions à poser, des réponses qui ne sont pas forcément données. Donc, ouais, tout ça peut amener aussi à avoir envie d'être indépendant.
Oui. Je ne suis pas d'accord sur les contrats.
Oui.
Les grosses maisons ont des contrats avec des clauses abusives.
Ouais.
Il faut lire les contrats d'achète. Franchement, c'est...
Ils sont pas tous pareils, en fait.
Stratosphérique.
Un contrat d'édition, ça se négocie. Toujours. Toujours, toujours. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai été prise, mais si je commence à être pénible sur le contrat d'édition, je ne vais être pas prise. Non, au contraire, vous vous ferez respecter si vous négociez votre contrat d'édition en disant, voilà, moi, cette clause-là, personnellement, ça ne me conviendrait pas trop. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et on est dans du rôle un peu business où on dit, voilà, moi, ça, je voudrais obtenir ça. Et souvent, vous l'obtenez. Par contre, si vous signez un contrat comme ça, avec des clauses abusives, votre texte, vous ne pourrez jamais en récupérer les droits ou vous serez coincé sur des choses que vous n'aviez pas prévues, le contrat d'exclusivité, par exemple, où vous devez soumettre tous vos futurs textes d'abord à la maison d'édition, qui doit prendre son temps, qui peut prendre son temps 1 an, 2 ans, 3 ans pour vous donner la réponse. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas sortir votre texte. Donc, lisez bien les contrats d'édition qu'on vous propose. Faites toujours des sondages, regardez le forum Jeunes Écrivains, il est topissime pour donner des avis éclairés sur telle et telle maison d'édition, tel et tel contrat, et surtout allez voir le travail que fait la Ligue des auteurs professionnels. En plus, il y a quelqu'un, un membre actif de la Ligue qui est là, qui a fait un travail de dingue pour générer un contrat type. Un contrat type qui est favorable à toutes les parties et pas seulement les auteurs, qui essaye d'être un contrat gagnant-gagnant. Et vous pouvez dire à votre maison d'édition, voilà le contrat de la Ligue des auteurs professionnels. Je me considère comme un auteur professionnel. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil à ce contrat et me faire le même? Et là, vous vous faites respecter. Et croyez-moi, vous avez intérêt à vous faire respecter parce que c'est que le début du chemin.
Alors, je rebondis à nouveau sur le sujet, mais il faut faire un petit peu attention aussi avec la manière dont on peut vouloir négocier, alors je précise, un premier contrat quand on est un nouvel auteur et que c'est le premier contrat qu'on signe, parce que moi, c'est comme ça, enfin, personnellement, que ça a été difficile, parce que j'ai voulu négocier au niveau du deuxième contrat, qui est le contrat des droits audiovisuels, parce que j'avais déjà avancé beaucoup avec toute une équipe derrière moi. Donc c'est comme si je me sentais 30 personnes derrière moi, dont j'étais responsable, qui avaient travaillé sur le projet de pré-production de l'adaptation cinéma. Et quand j'ai vu les clauses qui m'étaient proposées, j'ai voulu négocier une partie. Et je me suis heurté à un os, quoi. Et clairement, c'est ce qui a fait rompre le contrat avec la maison. Donc il faut faire un petit peu attention. Si on a déjà une certaine reconnaissance, alors que ce soit un auteur indépendant ou auteur édité, ou les deux hybrides, comme on dit maintenant, je crois qu'on ne peut plus se permettre de négocier une certaine égalité. Après, quand on débute, il faut faire un petit peu attention et se montrer assez humble quand même, tout en se faisant respecter, je pense.
Je suis pas d'accord du tout. Non. Là, c'est un cas particulier. En plus, les droits audiovisuels, c'est un contrat à part qu'on n'est pas du tout obligé de signer. Beaucoup de maisons d'édition vont vous dire, il faut le signer dès la signature du contrat pour le livre. Et pas du tout, absolument pas. Sachant que 90% des maisons d'édition n'ont absolument pas du tout, ne vont pas essayer de vous faire adapter votre livre en film, hein, soyons honnêtes. Donc, oui, 99%, même chance. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de leur céder ces droits-là, il faut le savoir. Et on parle de votre livre, pas d'une potentielle adaptation au cinéma. Donc, il faut aller là-dessus. Les droits, on les négocie dans le sens. Effectivement, je vois ce que tu veux dire par « il faut rester humble ». C'est sûr que si on me propose 2000 euros d'avaloir, je ne vais pas dire « non, moi, c'est 10 000 ». Non, bien sûr. Mais toujours se dire « attends, je peux peut-être demander 500 euros, 1000 euros de plus. Mes droits d'auteur en jeunesse sont qu'à 6%. Je vais demander 8, peut-être que j'aurai 7. » De toute façon, si vous négociez pas, vous n'aurez rien. Si vous négociez, vous aurez peut-être un tout petit peu. Et c'est toujours ça de prix. Et moi, je dis souvent, on négocie pas que pour soi, on négocie aussi pour les auteurs qui arrivent derrière, ceux qui sont justement plus jeunes, qui arriveront après. Et la maison d'édition va peut-être aussi tenter de tirer les choses vers le bas. Moi, je vous assure, à la Ligue, on voit des choses en ce moment qui arrivent. C'est de pire en pire. Il y a des nouvelles pratiques encore plus compliquées pour les auteurs qui sont en train d'arriver. Et si on ne stoppe pas collectivement en tant qu'auteur maintenant ces abus-là, on va vers des choses qui sont vraiment très inquiétantes. Mais on est en train de complètement dériver. Mais c'est important aussi. C'est important.
Mais là, on parle de contrat d'édition. En tant qu'éditeur, entrepreneur, vous n'avez pas de contrat à signer, ou bien ?
Non, on a dérivé. On a complètement dérivé.
Non, nous, on gagne ce qu'on appelle des royalties. C'est-à-dire un droit d'auteur. On en a encore discuté il n'y a pas longtemps à table. Il y a plein de gens qui l'ont découvert. Un droit d'auteur, ce n'est pas du droit du travail. C'est un droit patrimonial. C'est comme si vous vendez une maison. Donc, c'est quelque chose d'assez absurde au jour d'aujourd'hui, alors que c'est un métier, hein, on y passe du temps pour écrire. Alors que lorsqu'on est indépendant, ce qu'on gagne, ce sont des royalties sur nos ventes. Donc, on vend des livres, le livre coûte tant, nous le vendons tant, nous avons le bénéfice, et ce bénéfice, quand il nous est versé par une plateforme tierce comme Amazon, c'est des royalties. Lorsqu'on le vend sur notre boutique ou ici en salon, on gagne la partie vraiment prix du livre moins coût de fabrication. C'est exactement tout pour l'auteur.
Et
coût libraire quand on est sur une table, effectivement, hébergée par un libraire qui nous reçoit chez lui. Et là, on a le pourcentage libraire qui tourne entre 20 et 30%, plutôt 30% d'ailleurs habituellement pour un libraire. Donc, il faut calculer ses coûts, mais... Grosso modo, quand je vais au plus gros, en fait, quand je fais des formations ou des conférences sur l'auto-édition, grosso modo, sur un livre à 20 euros, quand vous êtes édité et que c'est votre premier roman, vous gagnez 1 euro. Voilà, vous êtes édité, vous gagnez 1 euro sur votre livre, qui vous sera versé au bout d'un an et quelques mois. Parce que c'est à la fin de l'exercice qui suit la parution de votre livre. Quand vous êtes indépendant, que vous vous auto-éditez, votre livre... par exemple que vous distribuez par Amazon, tous les mois, vous recevez les bénéfices sur votre compte en banque. Ça change beaucoup de choses. Et grosso modo, il faut estimer à peu près 10 euros par livre que vous pouvez récupérer. Donc, 10 fois plus. Après, c'est une fourchette. Moi, j'ai un livre de développement personnel. Je veux qu'il soit lu par un maximum de personnes parce qu'il fait beaucoup de bien. Je le vends 10 euros. Vous comprenez bien que je ne gagne pas 10 euros dessus. C'est mathématique. Hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pu décider de faire ce que je voulais. J'ai une amie autrice qui est éditée par deux maisons d'édition différentes. Et c'est l'une des réalités de l'édition qui est compliquée, c'est que vous appartenez toujours à plusieurs maisons d'édition. Vous êtes rarement l'auteur exclusif d'une seule maison d'édition. Là, j'ai des amis qui doivent se répartir sur plusieurs stands sur les imaginales parce qu'ils ont plusieurs maisons d'édition différentes. Eh bien, lorsque vous vous répartissez ainsi, lorsque vous devez répartir les données ainsi, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Non, c'est pas sur la marge que je voulais revenir là-dessus. Ça va me revenir très vite. Voilà, appartenir à un éditeur, donc c'est complètement faux. Et donc, ma copine qui a ses deux livres de deux maisons d'édition différentes sur sa table, elle a un livre qui est tout petit, qui est plus cher que le très gros. Parce qu'il n'a pas été édité par la même maison et que la maison d'édition qui a publié le petit livre l'a fait payer plus cher que le gros livre qui est édité par une autre maison d'édition. Bah, quand elle propose ses livres sur sa table, les lecteurs, ils la regardent un peu en disant « ça ne va pas. Pourquoi j'ai payé un livre plus cher qui est moitié de la taille de l'autre ?» Et elle n'y peut rien. Ce n'est pas elle qui a décidé ça. Donc c'est compliqué à gérer pour pouvoir arriver à placer ses livres en disant bah, « je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui ai fixé les prix. » Ça ne fait pas très maître de son destin.
Alors, moi, j'ai sorti un livre jeunesse en 2018, et puis j'ai reçu les droits d'auteur pour les trois derniers mois. J'ai touché 3,41 €. J'aurais mieux fait de le publier moi-même, alors. Bon, enfin. Oui, alors une question, justement, enfin, je sais pas, c'est une question, une remarque, parce que j'ai remarqué, justement, que certains éditeurs, maintenant, commencent à proposer de l'auto-édition. Par exemple, c'est le cas des éditions Slatkin à Genève, qui, au-delà de leur activité d'éditeur classique, proposent aux auteurs de faire de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge. C'est sérieux, hein. Alors, je vois pas très bien comment ils s'en sortent comme ça, mais il y a des auteurs qui vont payer pour que la maison d'édition, enfin, en gros, je me demande si ça ressemble pas à du compte d'auteur quelque part.
Alors.
Parce que tu te retrouves avec les livres sur les bras. Et puis voilà.
Ça, je l'ai vu, ça commence à arriver en France. Il y a plusieurs grosses maisons d'édition qui, quand elles vous envoient un refus pour un manuscrit, vous envoient un papier pour dire allez chez notre partenaire.
Allez chez LibriNova.
Chez LibriNova.
LibriNova, encore ça va, mais EduLivre, voilà. C'est un scandale.
Chez notre partenaire, vous mettez sur la plateforme, vous payez un petit truc pour mettre sur la plateforme, et puis là, si ça marche, éventuellement, on reviendra vers vous. Donc, il y a ce truc aujourd'hui de... on va voir d'abord si ça marche. C'est un peu le même principe que les éditeurs qui vont faire leur marché sur Wattpad, par exemple. Ils vont voir ce qui marche et ils se disent « Attends, mais ça, on va tenter. » Moi, pour mon livre Chromatopia, j'arrivais pas du tout à le faire éditer pendant 2 ans, etc. Je me suis dit « Je vais le mettre sur Wattpad. Ça se trouve, ça va m'attirer quelque chose. » Résultat, ça a marché puisque Scrineo est revenu vers moi parce qu'une des éditrices est allée le lire sur Wattpad. Mais entre-temps, la branche numérique d'Hachette m'a fait une proposition via Wattpad. C'était un truc genre 400 euros d'avaloir pour faire du numérique uniquement sur un bouquin de 600 000 signes. Donc j'ai dit non, hein. Mais voilà le genre de choses qui se pratiquent, et voilà, ils font leur marché en se disant, en plus, les gens qui sont sur ces plateformes sont des gens qui crèvent d'envie d'être édités, d'être lus, etc. On y va, on propose un truc au ras des pâquerettes, et puis ils diront oui. Bon, manque de bol, moi je m'y connais un peu, donc j'ai dit non, mais je me dis les gens, notamment plus jeunes, etc. Bon, voilà, c'est pas des super pratiques, je trouve.
Ce qu'il est très, très important de vérifier, et c'est pour ça que j'ai parlé du forum Jeunes Écrivains, qui fait un travail de prospection remarquable et qui prévient les auteurs en disant ne signez pas chez eux, c'est qu'il faut absolument éviter de signer la cessation de vos droits, parce que vous les signez pour un temps infini, voire enfin, votre vie, et même encore après.
70 ans après la mort.
C'est ça. Et du coup, vous ne pourrez pas récupérer vos droits, à moins de payer pour récupérer votre texte. Et c'est des maisons d'édition qui prennent en fait de votre argent, mais qui en plus gardent votre texte sous le coude. Et même si vous voulez le faire corriger, une coquille, etc., vous ne pouvez pas, c'est payant. Et vous avez perdu votre bébé, vous avez perdu votre texte, vous avez perdu ce que vous aimiez. Vous avez donné, en fait, c'est le pire. Le pire, c'est le compte d'auteur ou ces prestations que vous payez. Alors, après, il y a des prestations, il y a des maisons qui fournissent des prestations, mais ils sont déjà estampillés comme prestataires de services. Ils disent, nous, on peut vous faire un forfait impression, un forfait mise en page, un forfait correction. Vous le savez, et vous savez que ce ne sont pas des éditeurs. Ça, c'est honnête. Quand c'est quelqu'un qui vous dit je suis édition machin, et puis attention, hein, il y a des noms prestigieux qu'on connaît. Par exemple, si je vous dis L'Harmattan, certains se disent ah ouais, je connais, c'est vachement bien. L'Harmattan, c'est du compte d'auteur. Et donc, il y a plein de gens qui se sont fait avoir, qui se sont dit je suis édité, sauf qu'en plus, dans le milieu professionnel, quand vous dites mon éditeur, c'est EduLivre, les gens à côté, ils disent je sais très bien ce que c'est EduLivre, c'est pas un éditeur. C'est un escroc. Donc, faites attention. Non, mais j'y vais cash, parce que je le sais. J'ai des amis qui sont vraiment prisonniers d'EduLivre, qui ont perdu leur texte, leur bébé sur lequel ils avaient écrit leur histoire d'enfance, d'amour, de parents, de machin. Ils l'ont complètement perdu. Ils ne peuvent pas le récupérer, à moins de payer des sommes astronomiques. Et ça, c'est de l'escroquerie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc, attention quand vous signez quelque chose. Ça vous engage. C'est très, très important, les conséquences.
Et faites attention aussi, en ce moment, j'en vois beaucoup sur Instagram, en pub sponsorisée, des maisons d'édition là, qui se lancent et qui disent « On recherche 150 textes sur tel sujet, machin et tout. » Et toi, tu regardes et tu te dis « Ah, mais tiens, j'ai écrit ça, il serait temps tu penses ça pour un concours de roman, et en fait, c'est pas du tout un concours. C'est juste, on va vous dire, vous participez à un concours pour dire oui à l'ensemble des textes envoyés et vous proposer ensuite de payer tant pour être édité. Donc faites très attention à ça aussi. C'est la nouvelle façon de faire de ces maisons d'édition à compte d'auteur, puisqu'on les dénonce les unes après les autres.
De toute façon, d'une manière générale, il faut se méfier des annonces qu'on voit passer sur le net de soi-disant maisons d'édition qui recherchent des nouveaux talents. Parce qu'en général, les maisons d'édition ne recherchent pas des nouveaux talents. Elles reçoivent des quantités de textes sans qu'elles aient besoin de faire de la pub pour ça.
Ils croulent sous les textes. Ils ont des entrepôts entiers de manuscrits. Ils croulent sous les textes. Et pendant le confinement, il y a eu 40% de manuscrits en plus. Voilà, les gens ne cherchent pas des nouveaux auteurs. C'est une question de rencontre. C'est pour ça que venir dans des festivals comme ici, les Imaginales, c'est bien, parce que vous vous faites voir, vous rencontrez des gens, vous échangez avec eux. Rien ne vaut ce réseau que vous créez petit à petit. Il y a des personnes dans cette salle qui sont venues il y a 3, 4 ans, qui avaient un manuscrit sous le coude, etc., et qui aujourd'hui sont éditées grâce notamment aux rencontres qu'ils ont faites ici. Donc ça, c'est positif. Visez plutôt ça, plutôt que des inconnus qui font des publicités qu'ils ont payées. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ils ont payé pour, après, récupérer de l'argent, en fait.
Merci. Ma remarque sur les éditeurs qui proposent de l'auto-édition, soi-disant, c'est justement pour montrer qu'effectivement, c'est un marché que certains essayent de faire de l'argent avec. Donc, effectivement, le bon conseil, c'est les contacts, c'est les relations, c'est ça qui marche. Ouais. Est-ce qu'il faut connaître des logiciels spécifiques pour s'auto-éditer ? Parce que moi, je connais Word, hein, mais au-delà, voilà, c'est une question que je vous pose.
Bon ben, je dirais que InDesign, c'est un logiciel de référence pour de la mise en page. Qu'on utilise en PAO. Enfin, moi, en tant que graphiste, voilà, je travaillais sur WorkExpress. Après, Adobe a fait le package complet avec Illustrator, Photoshop, enfin, pour ceux qui connaissent. Enfin, en tout cas, InDesign est un logiciel de mise en page très, très adapté, qui permet vraiment de formater son livre de la manière que l'on veut, avec choisir ses marges, marge extérieure, marge intérieure, choisir tout ce qui est possible de faire, que Word ne permet pas de faire.
Et qui ça demande une certaine prise en main. Donc ça, parfois, c'est pas seulement l'argent du logiciel, il y a aussi le côté, le temps nécessaire, la formation pour les prendre en main, ces logiciels. Mais du coup, vous acquérez des compétences qui peuvent vous servir dans d'autres choses. Donc c'est toujours, faut voir ça comme une croissance, en fait. Par contre, on parlait du prix des logiciels, n'achetez pas des versions craquées ou des choses comme ça, parce que moi, les deux auteurs qui font ça, qui achètent des fausses versions ou qui se téléchargent des versions craquées de logiciels payants et qui après vont pleurer parce que leurs livres sont en téléchargement illégal sur les réseaux, etc., c'est pas cohérent comme démarche. Donc, si vous voulez pas, faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Donc, vos livres seront de toute façon en téléchargement illégal. Ça veut dire que vous avez du succès parce que les mauvais livres ne sont pas en téléchargement illégal, je vous rassure. Donc, quand quelqu'un vous signale que votre livre est en téléchargement illégal, sachez bien que vous avez très peu de choses que vous pouvez faire. Moi, traditionnellement, je vais sur la plateforme et je dis « Bonjour, je suis l'autrice du livre. » C'est très sympa de remercier la personne qui l'a mis en téléchargement ici, mais ce serait sympa que vous me laissiez aussi un commentaire disant que vous avez apprécié mon livre sur un réseau classique de distribution.
Et un pourboire encore mieux.
Ça, je pense que les personnes qui utilisent des livres en téléchargement illégal, de toute façon, n'auraient pas acheté ton livre. Donc, bon, de toute façon, ce n'était pas des lecteurs qualifiés, comme on dit. Il n'empêche qu'au moins, j'ai vu récupérer de temps en temps, j'ai pu récupérer des commentaires comme ça. Et les commentaires, on en a besoin, c'est de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à solliciter des commentaires. C'est votre monnaie à vous, en fait, les avis. Il y a une personne hier qui m'a dit « Ah, je prends votre livre et je vous dirai si ce n'est pas bien ». Je dis, ben écoutez, d'accord, mais surtout, si c'est bien, revenez vers moi aussi, parce que c'est quand même plaisant. Et elle me dit, ah non, parce que si c'est bien, c'est normal. Et je dis, ben, je ne suis pas comme ça, je pense que c'est mon salaire en fait à moi, parce que très honnêtement, passer 7 ans à écrire un bouquin, le publier et gagner 10 euros dessus, ce n'est pas un vrai salaire. Moi, c'est votre appréciation qui est mon salaire. Et là, comme je pense que j'ai fait mouche, je pense que j'ai fait tilt. Et donc, c'est là-dessus aussi que la partie sur laquelle je voulais rebondir. Personne, je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui sont millionnaires. Je pense qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. C'est un plus, c'est très agréable de gagner de l'argent et on en gagne plus sur les livres indépendants que sur les livres édités, ça c'est un fait. Il n'empêche que notre vrai salaire, c'est d'avoir des lecteurs qui ont aimé nos histoires, de créer notre communauté. Et cette communauté, il ne faut pas hésiter à être nous-mêmes. Ça c'est très 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 important, je voulais vraiment insister là-dessus sur cette table ronde. Quand vous allez être vous-même, vous allez vous perdre des lecteurs. C'est forcé, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, vous allez perdre des lecteurs, vous serez trop bisounours, vous serez trop gore, vous serez trop vampiresque, machin. Tant mieux, parce que les lecteurs que vous aurez, ce sera vraiment les lecteurs parfaits pour vous, ce sera les lecteurs idéaux pour vous. Et ceux-là, ils seront fidèles, ce seront des fans, ce sera mieux que des lecteurs. Ce seront des personnes qui vous suivront, qui achèteront tous vos livres. Et ça, c'est ça que vous devez viser, c'est des lecteurs qui vraiment... vous aimeront pour vos histoires, vos livres, vos textes. Et tant pis si vous perdez tous ceux qui étaient peut-être plus nombreux, qui lisaient de la blanche, qui lisaient de la romance, etc. Mais au moins, vous aurez généré des lecteurs qui vous ressemblent. Et croyez-moi, ça, c'est top.
Moi, j'ai une question, du coup. Désolée. En termes de genre, parce que moi, par exemple, j'écris des choses très différentes dans plein de genres. Là, tu parles de fidéliser des lecteurs. Est-ce qu'en auto-édition, tu conseilles de... rester dans un champ assez proche.
Tu es toi. Toi, tu es multifacette. Donc, tu vas attirer des gens qui sont multifacettes. Et moi, j'ai commencé par du culturel merveilleux. Donc, on est sur un truc vraiment réaliste qui se passe en Écosse, en Grèce aujourd'hui. Et j'ai emmené les fidèles des fidèles sur l'heroic fantasy. Parce que ben, c'était moi. Et comme c'était moi, ils ont aimé. Après, c'est pas dit qu'ils aiment l'heroic fantasy en général, mais c'était mes fidèles, en fait, mes lecteurs fidèles. Et donc, on conseille souvent d'avoir une niche, de se dire, tu fais que de ça. Mais si vous aimez autre chose, vous attirez les gens qui aiment tout. Donc, être vraiment soi-même, ça dégage une authenticité, ça dégage quelque chose qui va attirer à vous les gens qui vont se reconnaître. Donc, votre blog doit être à votre image. Si vous aimez mettre des petits cœurs partout, mettez des petits cœurs partout. Vous allez perdre tous ceux qui détestent les petits cœurs. Yes, ça fait une présélection. Okay, et c'est bien.
Tu es d'accord avec ça sur le genre
En fait, comme je suis rarement sorti de mon genre, j'ai du mal à pouvoir répondre à la question. J'ai juste fait une autofiction sortie chez Pygmalion. Qui, pour le coup, sortait totalement du domaine du fantastique, de la fantasy. Ça parlait du monde contemporain, avec une revisite du conte de Peter Pan, très décalé, avec beaucoup d'autodérision, et donc totalement différent de ce que je faisais avant. Je pense que j'aurais pu y garder mes lecteurs. Alors le problème, je reviens au fait qu'on ne peut pas forcément choisir le titre de son bouquin quand on est édité. Moi, j'avais choisi « Peter Pan dans ta gueule ». Oui. En général, voilà, ça provoque ce genre de réaction. Mais mon éditrice a jugé que c'était un peu trop agressif et que le côté girly qu'elle voulait entretenir dans sa maison d'édition, ça n'allait pas passer, quoi. Donc, du coup, ça s'est appelé l'art de se prendre les murs, pour ce qui est assez rigolo. Mais ça, vous voyez, ça provoque moins de spontanéité et hilar que votre titre. Et de plus, ça s'est retrouvé dans une collection... qui parlait de contes décalés. À différence que moi, je me suis servi de Peter Pan vraiment de manière pour me raconter moi, puisque c'était une autofiction d'un gamin qui grandit, qui veut vivre de ses rêves et qui se prend des mandales à la tronche en permanence. Et pour le coup, on ne retrouvait pas trop l'histoire de Peter Pan dedans. Et les personnes qui ont acheté le livre en croyant y retrouver un peu leur compte de manière décalée ont été déçues. Et ce qui fait qu'à la fois le côté collection et le côté titre ont fait que les lecteurs ont été trompés en fait, sur le produit. Et donc autant l'éditeur que l'auteur sont perdants, ce qui est un peu embêtant. Voilà. J'ai un peu dérivé là, mais
pas grave sur la question. Nathalie Bagadet a dit tout à l'heure, tenez sur votre blog. Alors, je suis en train de m'interroger. Donc, non seulement il faut faire tout un gros travail d'auto-édition, mais en plus, il faut tenir un blog et un site internet.
Oui. Alors, le site internet, c'est un must. Et attention, il y en a une qui va se cacher. Le site internet, il est à votre nom. Ne vous cachez pas derrière votre œuvre. En vous disant, alors c'est pas forcément se cacher, mais en disant au départ on n'a qu'une œuvre en fait, c'est notre bébé, c'est ça qu'on veut promouvoir, mais après vous serez tellement d'autres choses, dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère vous aurez publié beaucoup d'autres livres. S'il n'y a que votre nom d'œuvre, vous ne serez pas visible derrière ce nom d'œuvre. Donc mettez-vous en avant, écrire c'est s'exposer, de toute façon vous aurez des lecteurs qui vous liront et vous vous exposez à partir du moment où vous avez mis vos mots sur un papier et que vous avez vendu votre livre. Donc il faut être prêt à ça. Vous pouvez prendre un alter ego, un pseudonyme. Ça peut vous protéger un peu parce que c'est le pseudonyme qui risquerait d'être attaqué et pas vous. Si vous choisissez un pseudonyme, je vous conseille vraiment d'en choisir un unique et pas Nathalie Moulin, par exemple. Je m'appelle Nathalie Bagadet. C'est un nom que j'ai créé. Et quand on tape Bagadet sur Google, il n'y a que moi. Eh bien, ça me donne de la visibilité. C'est énorme. Mon site, Nathalie Bagadet. Partout, Nathalie Bagadet. Eh bien, maintenant, quand je suis dans les réseaux, je parle avec des conférenciers, des choses comme ça, quand je dis, ah, au fait, le chèque, tu ne fais pas Nathalie Bagadet. Pourquoi ? Ben, ce n'est pas mon nom, en fait. Mais je suis plus connue sous le nom de Nathalie Bagadet. Et c'est super. C'est ce nom-là derrière lequel je suis reconnue. Et donc, oui, un site internet. Alors après, tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup. Faites ce qui vous correspond le mieux. Mais le site internet, juste une page, une simple page, pour qu'on vous retrouve, qu'on sache ce que vous publiez, vos actualités, c'est un must parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne sur internet. Les gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de regarder sur le portable. Donc, si vous n'êtes pas visible sur le net, vous ne serez pas visible, vous n'aurez pas de lecteur. C'est un peu frustrant. Donc, site internet, oui. Et les tâches, moi, traditionnellement, mon temps d'écriture, c'est le matin. Et le matin, je coupe tout. Ça ne sert à rien de me téléphoner, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai tout coupé, je suis en mode avion. Et là, j'écris. Et l'après-midi, je fais toutes les tâches liées à l'édition, la com, la mise en forme, etc. Sauf au moment du lancement d'un livre. Là, au moment du lancement d'un livre, déjà, on n'a pas la tête à écrire. On est en train de dire, est-ce que j'ai bien vendu des bouquins ? Est-ce que j'ai eu des nouveaux commentaires, etc. Vous êtes à fond dans le lancement de votre bébé. Donc là, ce n'est pas le moment où vous pouvez écrire. Mais enfin, personnellement, je ne peux pas. Mais sinon, le reste du temps, essayez de bien différencier, d'accorder des plages. Comme vous accordez des plages d'écriture, c'est comme ça qu'on avance. C'est quand on se laisse du temps pour écrire. Accordez-vous des plages aussi pour la publication, la communication, le suivi des commentaires sur les réseaux sociaux, etc.
C'est toute une organisation qu'il faut s'imposer. Mais c'est comme tout auto-entrepreneur, en fait. Hein. Si on n'arrive pas... Il faut segmenter en fait sa journée de manière à se donner un rythme et pour ne pas s'y perdre, parce que sinon si on mélange les choses, en plus on peut effectivement se faire parasiter par les réseaux sociaux pendant qu'on est en train d'écrire, et ça c'est mortel. Donc il faut éviter tout ce genre. J'avais une question aussi quand même qui nous concerne tous, hein, mais vous l'avez peut-être posée, je ne sais pas. Mais c'est concernant le regard que peuvent poser les critiques, notamment les blogueurs, les blogueuses, sur les auto-édités. Alors je pose la question avant moi-même d'y répondre.
Hein. Très bien, très bien. La question est très intéressante, justement.
Je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à dire là-dessus, parce que moi, du coup, comme je suis éditée dans le secteur classique, je pense que je bénéficie de ce saut-là en se disant, bah, du coup, ce sera forcément sérieux et bien écrit parce qu'elle a déjà édité à côté. Mais je pense quand même que oui, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise vision. Moi-même, je vais être honnête, si je vois une couverture faite sous Paint avec des trucs mal détourés en comics en MS ou je sais pas quoi, je vais me dire, bah, fatalement, je pense que le contenu n'est pas bon. Ce qui est peut-être un préjugé très mauvais, mais
J'avoue qu'aujourd'hui, quand je vois certaines personnes auto-éditées qui font des boulots sur des couvertures absolument magnifiques, qui pourraient faire, qui pourraient, enfin voilà, qui n'ont rien à envier à des couvertures de chez Gallimard ou quoi, je me dis, bah ça, ça doit être de la super qualité avec quelqu'un qui s'est vraiment engagé de A à Z dans son boulot. Donc je pense que, je pense que le reste du public doit aussi avoir cette démarche-là quand même, qui doit jouer quand même. Ouais.
Bah, les préjugés, ils sont venus de cette appellation auto-édité et du manque de professionnalisme de certains auteurs. Et ça, il y en a eu, c'est indéniable, il y en a encore, qui sont là en train de dire ça, pff, flemme. Non, si vous dites ça, pff, flemme, ça ne marchera pas. Donc il faut encore plus, parce que justement vous êtes indépendant, que vous allez être attendu au tournant. Donc il faut travailler vraiment toutes les étapes et donc les déléguer, celles qui sont pas, vous n'êtes pas adéquat. Mais ça fait donc 6 ans que je suis auto-éditée ou indépendante. Les seules méfiances et réticences que j'ai vraiment rencontrées dans le monde professionnel, c'était pas les médias. J'ai un pressbook impressionnant. C'était pas les organisateurs de salons. Et je pense que ma présence ici, derrière une table de dédicaces dans la section des invités, en est la preuve. Et je fais beaucoup d'autres salons. Ce n'était pas les éditeurs. Les éditeurs, c'est des potes à moi. J'ai participé à une anthologie où j'ai donné ma nouvelle et où les bénéfices ont été reversés à un éditeur chez qui je n'ai jamais été édité. C'est un ami. Donc, c'est pas ceux-là qui ont fait preuve de méfiance. C'est pas les lecteurs. Les lecteurs, souvent, ils veulent juste savoir l'histoire. De quoi ça parle? Faites-moi rêver. Est-ce que ça peut me correspondre? Et vous êtes édité chez qui? Ça arrive très rarement comme question. Non, les seuls qui encore ont parfois de la méfiance, de la réticence, voire de la peur, ou de la jalousie, ça arrive aussi, c'est les auteurs. C'est les seuls chez qui, parfois, j'ai senti ce « elle s'auto-édite, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé une maison d'édition ». Non. Non, ça peut être un choix, ça peut être un côté hybride, ça peut être juste pour un bouquin. Il y a plein de raisons, on l'a vu, hein, pour s'auto-éditer. Mais les seuls qui encore ont cette peur souvent, ce sont les auteurs, parce qu'ils ont toujours connu ce modèle-là. On a toujours connu l'édition classique, ça date quand même du 19e siècle. Notre modèle, il faut un peu qu'il bouge aussi les choses. Et parce que certains ont été à « je fais flemme, je fais vite ». Non, si vous le faites bien... Vous n'aurez pas ce mépris-là ou cette amertume-là. De toute façon, vous, ce qui vous intéresse, c'est les lecteurs. C'est ça.
Je m'excuse, l'heure tourne et je crois que nous sommes au bout de cette table ronde qui était très intéressante, très enrichissante. Et je voudrais juste citer, ça me revient tout d'un coup, une phrase de Jacques Brel qui disait « Le talent, c'est du travail ». Et ce que vous venez de dire, c'est ça. Je crois qu'avec le travail, on obtient le talent. Et ben, merci beaucoup pour tout cet échange.
Merci.